Moi, je suis un peu comme le schtroumpf grognon. J'aime pas les bilans. C'est vrai, j'aime pas les bilans. Tous les 12 mois, c'est vrai, on fait des bilans, des rétrospectives et des nouvelles résolutions. Chaque année, c'est pareil. Et ça change quoi, au fond? Nécessité ou simple tradition? Et en support de bilans et de vœux, je vous propose une question qui vous semblera sûrement bizarre de prime abord, mais qui, j'espère, suscitera notre réflexion et notre curiosité avant que nous lisions un verset qui l'éclairera. Et cette question est: un arbre se donne-t-il du mal pour porter du fruit? Un arbre se donne-t-il du mal pour porter du fruit? Drôle de question, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se posent vraiment des questions idiotes des fois. Elle n'est pas si idiote que ça, je pense, cette question. Certains y répondront en disant « on n'en sait rien ». D'autres diront « un arbre, ça ne se donne pas de mal, parce qu'il n'a pas de conscience, il pousse, c'est tout. Ça fait partie de la nature, de sa nature. » Qu'en pensez-vous? Et je vous propose de lire aussi un verset dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le verset 5, et on le relira après dans son contexte un peu plus tard. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un sarment se donne-t-il du mal pour porter du fruit? Nous donnons-nous du mal pour porter du fruit? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous l'avons déjà abordé ce verset, et vous le connaissez certainement, et qui considérons-le dans notre contexte de fin d'année, de début d'année. Et ainsi, si vous voulez faire, ou si vous devez faire, un bilan de votre année, ou quoi que ce soit d'ailleurs, faites-le à la lumière de ce verset. Évaluons toute chose sur cette base. Si vous voulez faire, ou si vous devez faire, des vœux, des projets, ou prendre des résolutions, ou quoi que ce soit d'ailleurs, faites-le à la lumière de ce verset. Prévoyons toute chose sur cette base. Un sarment ne se donne pas de mal pour porter du fruit. C'est ainsi que je comprends ce verset. Mais il donne du fruit parce qu'il est attaché au cep. Tout simplement. Il donne du fruit si et seulement si il est attaché au cep. Si et seulement si la sève nourrissante venant du cep le nourrit. En étant attaché à Christ, et en le laissant nous remplir, ou plutôt par la présence du Saint-Esprit en nous, car c'est lui au sens strict qui vit en nous plutôt que Christ, mais la communion entre eux est telle qu'avoir l'un est comme avoir l'autre, alors nous portons du fruit. Nous le savons, mais il est certainement bon de se le rappeler régulièrement. Demeurer en Christ, c'est maintenir une connexion vitale, vivifiante avec le cep qui est la source de la vie. Rester en relation intime avec lui, sans cela, il est impossible d'y porter du fruit. Et ce verset dit aussi en substance qu'il est aussi impossible de ne pas porter de fruit si cette attache existe. Porter du fruit sans effort. Pourtant, je ne vous apprends rien. La vie chrétienne demande de l'engagement, et donc de l'effort. C'est une certitude, et nous le savons, et nous le vivons. Le nier, je pense, ce serait ne pas avoir bien lu la Bible, et ne pas vivre sur la même planète que chacun d'entre nous, et ne pas vivre l'existence humaine et ses difficultés et épreuves récurrentes. Oui, la vie chrétienne demande de l'engagement, et donc de l'effort. Pourtant, Un arbre ou un sarment se donne-t-il du mal pour porter du fruit? La réponse est non, il en porte naturellement. En puisant les nutriments nécessaires à sa croissance, la lumière pour la photosynthèse, l'eau, etc., il le fait naturellement, car pléonasme, c'est sa nature, l'ordre normal des choses, sans se donner du mal. Et comme le souligne l'apôtre Jean, pour un chrétien, ça devrait être la même chose. Oui, la vie chrétienne demande des efforts, mais ne nous donnons pas du mal à porter du fruit. Ne nous efforçons pas à porter du fruit, efforçons-nous de rester attachés à celui qui, le seul, peut nous nourrir et nous alimenter, spirituellement parlant. Laissons simplement la sève, la lumière, l'eau vive du Seigneur, auquel nous sommes attachés, nous nourrir et contribuer à notre croissance spirituelle naturelle. Alors, et seulement alors, dit ce verset, nous porterons du fruit. En corollaire de notre verset, les commentateurs soulignent en effet que le fruit ne dépend pas de la capacité ou de la bonne volonté de Christ, il dépend du disciple s'il veut demeurer en Christ ou non. C'est en bonne partie un choix à faire et à renouveler très régulièrement. Nos efforts, si l'effort il doit y avoir, sont pour répondre à son invitation de rester attaché à lui, de puiser en lui. Évidemment, c'est une image, ce fait d'être attaché à lui. Mais c'est parent, je trouve. Jean rappelle à ses disciples via cette image, Jésus plutôt rappelle à ses disciples via cette image du cep et des sarments, l'importance de rester constamment dépendant de lui. Tout l'évangile de Jean, d'ailleurs, porte, me semble-t-il, comme fil conducteur important, essentiel, ce message que notre vie ne sera réellement vivante que si elle est attachée à lui. Connectée, serait un mot actualisé, dépendante de lui en tout cas. Pas facile. Et pas du tout encouragé par la société et notre éducation d'être ainsi dépendant, n'est-ce pas? Mais la dépendance, c'est un constat d'échec. C'est un signe de faiblesse. C'est pour les enfants ou les personnes très âgées. En tout cas, dans notre pensée occidentale moderne d'adultes, c'est souvent le cas. On ne veut pas être dépendant. Mais à vrai dire, c'est pas si occidental et pas si moderne que ça. Un problème de dépendance et une volonté d'indépendance, n'était-ce pas déjà ce qui était la cause d'une rébellion en Orient, en Éden, je crois, il y a bien longtemps de cela déjà? La rébellion initiale lors de la chute, mais c'est une autre histoire. Dieu est-il le souverain de ma vie? C'est la base de la vie chrétienne, de la vraie vie, nous dit ce verset, dépendante de lui et de lui seul. Jésus est notre approvisionnement, notre renouvellement, la source de notre vie spirituelle, notre raison d'être et même notre capacité à vivre. Notre bilan de cette année passée est-il positif parce que Christ nous a nourris? Parce que nous avons puisé en lui notre nourriture, ou plutôt un peu moyen sur ce plan-là. Nos ambitions, dans le beau sens du terme, nos projets, sont-ils beaux pour Dieu, pour l'Église, pour les autres, et donc pour nous-mêmes, parce que nous les voulons exclusivement nourris par Christ, fondés sur Christ, ou puisons-nous ailleurs? Nous appuyons-nous sur un autre chose, quelqu'un d'autre que Christ, nos propres forces, notre propre intelligence, une façon de faire du monde, une logique humaine. Je vous invite à lire tout le passage pour avoir le contexte du verset. C'est toujours important, me semble-t-il, de le faire pour ne pas faire dire n'importe quoi non plus à quelques mots pris isolément. Et je vais lire dans une version que tu n'auras pas, Pedro. Je transforme quelque chose. Donc Jean 15, à partir du verset 1. Enfin, je vais changer un mot, en fait, qu'on va expliquer après. Je suis le vrai cep, donc parole de Jésus à ses disciples, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, et c'est là où je change le mot, il l'élève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous ne sommes pas théologiens et nous lisons probablement ce passage, en tout cas je le lis, souvent assez superficiellement. Mais si vous lisez aussi des commentaires, vous réaliserez qu'il implique de nombreuses questions théologiques fondamentales, intéressantes mais complexes, que nous ne pourrons pas aborder en profondeur ce matin. Mais il y a quand même une difficulté au verset 2, et vous avez remarqué vu que je l'ai souligné, par rapport à ce que j'ai lu. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'élève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je rappelle que le moi, c'est Jésus, et le il, c'est Dieu le Père. Et vos traductions comportent peut-être plutôt le mot il l'enlève, ou il le retranche, plutôt qu'il l'élève. Alors je vous épargne les détails, évidemment, mais le mot grec original a plusieurs sens, plusieurs significations, dont celle de lever, d'élever, y compris en sens figuré, comme élever les yeux ou la voix. Le sens de soulever aussi, y compris de soulever quelque chose pour le déplacer. Et enfin, d'enlever. D'où la fréquente traduction de ce verbe dans ce verset par enlever ou retrancher. Jean utilise ce mot plus de 20 fois dans l'Évangile, dans différents passages, et les différents sens possibles de ce verbe s'y retrouvent. Et dans les autres contextes, en général, la traduction est plus facile pour savoir quel sens est le plus approprié. Et ici, dans ce passage, il y a des avis différents, et même si je ne suis pas un spécialiste, je partage plutôt cette compréhension d'élever, plutôt que d'enlever, qui est la plus en lien et la plus logique dans l'image viticole que Jésus utilise. Selon les historiens, ce sont les Romains qui ont importé la technique de disposer la vigne sur des treillis permanents, un peu comme on le fait maintenant. Il y a toujours maintenant dans les vignes des fils de fer pour tenir les sarments. Mais à l'époque de Jésus, cette technique n'était pas encore en Palestine. Et les viticulteurs palestiniens laissaient encore les sarments retomber tout simplement par terre, ou en tout cas plier sous leur propre poids. Ils n'étaient pas soutenus, en particulier durant la période non productive. C'est seulement après, quand ils étaient censés commencer à porter du fruit, qu'ils les accrochaient à une sorte de tuteur, juste un bâton, qui était mis à côté du cep de la vigne. Ainsi, l'utilisation du verbe « élever » donne plus de sens à cette phrase, car les grappes ne se développent pas convenablement quand les sarments traînent par terre. Et Dieu est un bon vigneron, très attentif et soigneux de sa vigne, comme on peut le voir dans plein d'autres passages de la Bible qui utilisent cette image. Et la première chose que fait un vigneron est donc de soulever les sarments qui reposent sur le sol, de les attacher plus haut pour qu'ils soient mieux exposés au soleil et que le fruit puisse se développer. Et il serait curieux que la première chose mentionnée dans ce verset 2 soit le retranchement des sarments improductifs. Il semble plus normal de voir le vigneron d'abord lever ses sarments pour qu'ils produisent. Vous me direz, quelle importance, hein, on joue sur les mots. Les mots ont évidemment toujours de l'importance dans la Bible, et ça a de l'importance surtout si nous pensons que nous ne portons nous-mêmes peut-être pas de fruits, ou pas beaucoup de fruits, ou pas autant de fruits qu'on le devrait. Le Seigneur que vous connaissez vous dit-il, « Toi, tu portes pas de fruits, dégage, je te retranche. » Ou bien dit-il, « Toi, tu as besoin de plus de soleil. Je vais prendre soin de toi pour t'aider, t'encourager à te développer et pour te rendre capable de porter du fruit. » Évidemment, nous ne sommes pas là pour faire dire à la Bible ce qu'on a envie qu'elle nous dise. Mais une traduction ou une autre peut avoir un impact important sur notre compréhension du caractère de Dieu. Je vous laisserai y réfléchir. Un certain nombre de théologiens y a même vu aussi un impact majeur sur la compréhension du salut du chrétien, et en particulier la possibilité ou non de perdre ce salut en cas d'absence de fruits dans sa vie. Certains font remarquer que Jésus n'aurait pas averti ses disciples avec tant d'insistance en leur demandant de demeurer en lui s'il n'y avait pas un danger réel de ne pas demeurer en lui et de subir alors le sort qu'il prédit à ces branches-là, à savoir être jeté au feu, comme le précise le verset 6. La plupart des évangélistes, pourtant, des évangéliques aussi, comme nous, pensent cependant qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas perdre la vie éternelle. Je suis de cet avis, même si je ne me prétends pas théologien, loin s'en faut, et ceci en vertu d'autres passages qui ne comportent aucune ambiguïté et qui sont clairs, dans l'évangile de Jean aussi. Jean chapitre 10, verset 28-29, par exemple, que l'on connaît aussi, des paroles connues de Jésus, « Je donne la vie éternelle », donc là il la donne à ses brebis quand il se présente comme bon berger, « et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Les passages obscurs, ceux où il peut y avoir plusieurs traductions possibles, doivent toujours se comprendre à la lumière de passages plus clairs. C'est une règle dans notre lecture de la Bible, une règle que l'on doit appliquer dans notre compréhension de la parole. Et je pense que croire qu'un chrétien peut perdre son salut, ce serait en quelque sorte aussi croire que la promesse de vie éternelle que Jésus donne, comme on vient de le lire, serait conditionnée par les œuvres que nous faisons par la suite, ce qui, je pense, contredirait totalement le salut par grâce et quelque part induirait une certaine restriction des capacités de sacrifice de Jésus à la croix et de sa portée, comme quoi il ne serait plus pleinement suffisant. Donc pour moi, la possibilité de perdre son salut, en tout cas, ne fait pas partie de notre passage. En fait, je crois surtout que l'intention principale de ce passage n'est pas de parler de salut, car Jésus s'adresse à de vrais disciples alors. Il ne parle plus aux 12 en fait, dans ce passage, il parle aux 11, parce que Judas est déjà parti. Et son propos est de les interpeller sur leur vie qui doit être fructueuse. On peut très logiquement déduire des propos de Jésus qu'un chrétien vivant est un chrétien qui porte du fruit. C'est aussi ce que l'apôtre Jacques dit en substance dans son épître, on la connaît. Les œuvres, bien qu'elles ne sauvent pas, sont la seule preuve que notre foi est authentique, vibrante et vivante. Il semble donc correct de dire qu'un vrai chrétien doit à un moment ou à un autre porter du fruit, sinon ce n'est pas un chrétien. L'action transformatrice de Christ, et elle transforme en effet si le Saint-Esprit vit effectivement dans la personne concernée, doit nécessairement se voir d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, chez le chrétien. S'il n'y a absolument jamais, à aucun moment, aucun fruit, alors oui, peut-être on peut douter du salut de cette personne, mais attention, Dieu seul connaît les cœurs. Et je pense que notre compréhension de ce que doit être un fruit et a fortiori un fruit visible, n'est peut-être pas toujours correct. Que veut dire porter du fruit ? Et de quoi parle-t-on quand on parle de fruit ? Ce sont, à mon avis, les vraies questions à se poser en lisant ces versets. Et bizarrement, j'ai lu plein de commentaires, mais je n'ai pas vu un seul qui se pose des questions sur le fruit, justement, en lien avec ce passage. Beaucoup se posent des questions sur le sens de tel mot ou de tel mot. Vrai chrétien, faux chrétien, vrai croyant, pas vrai croyant, etc., etc. Personne ne se questionne sur cet aspect de fruit. Alors que ça me semble central, essentiel. Bon, en même temps, je n'ai pas tout lu ce qui existe comme littérature non plus. Hein. Mais de quoi parle-t-on quand on dit porter du fruit ? Quels sont les fruits que nous devons porter ? À titre collectif, on pense souvent qu'une église qui porte du fruit est une église qui grandit, avec des gens qui se convertissent. C'est une vision quantitative qui ne me semble pas être la bonne, même si une telle croissance est assurément un type de fruit que le Seigneur, dans sa grâce, et dans sa grâce seule, peut permettre. Mais il serait faux de dire qu'une église qui ne grandit pas quantitativement est une église qui ne porte pas de fruits, et encore plus faux, à mon avis, de penser que les chrétiens qui composeraient une telle église ne portent pas de fruits, puisque personne ne se convertit grâce à leur témoignage ou à leur prière. Les conversions ne sont, à mon avis, pas des fruits du chrétien, mais bien le privilège de l'action de Dieu. En tout cas, la politique du chiffre n'est pas, je pense, ce que Dieu veut que nous utilisions comme critère, même si on doit aspirer à une croissance, évidemment, de notre Église. Les critères sont autres, je pense, les fruits sont autres. Par exemple, la repentance est un fruit. Peut-être même le premier fruit à la conversion. Pas de conversion sans repentance. Est-ce que ça se voit nécessairement ? Dieu le voit. Nous, peut-être pas. La justice est un autre fruit que l'apôtre Paul mentionne. L'humilité, l'amour, bien sûr, la fidélité, la patience, la bienveillance, la persévérance, la miséricorde, le service, la prière, la paix. On ne pourra pas dresser une liste exhaustive, évidemment. Vous aurez sans aucun doute d'autres mots qui vous viennent à cœur ou à tête. Différentes choses qui peuvent être des attitudes, des comportements, des actions ou des sentiments. En tout cas, des reflets de la présence de Dieu dans nos vies. Et un chrétien engagé doit avoir envie que Dieu développe tout ou partie de cela en lui et dans sa vie. Quand Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », c'est cette part qui est attendue du chrétien, de vouloir, d'avoir envie. Ce sera possible, mais ne sera possible que s'il est en communion étroite avec Christ par l'Esprit Saint. Malheureusement, certains chrétiens sauvés, parce qu'ayant confessé Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, se contentent d'une vie en veilleuse, sans vraiment de fruits, ou avec peu de fruits. Le salut n'est pas perdu, mais la communion avec Jésus n'est pas, ou n'est plus, vivante. On peut préférer mener sa propre barque et ne pas laisser Jésus réellement être le Seigneur de sa vie. Celui qui la dirige, celui qui l'alimente. Et c'est cette communion, cette proximité, cette intimité avec Christ qui peut se perdre, je pense. Et c'est là la mise en garde de ces versets. Dieu est un vigneron qui aime sa vigne et qui en prend soin. Il attache les branches basses pour les élever. Il émonde aussi les branches, car Dieu veut que nous portions du fruit. Ce verbe « émonder » est traduit généralement par « tailler », mais littéralement il signifie « purifier ». Cela implique pour la vigne d'aussi enlever les insectes, les parasites, les rejetons inutiles, tout ce qui handicape la croissance de la grappe. Et pour le chrétien, c'est purifier sa vie, purifier du péché et de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans sa vie. Une sanctification et aussi peut-être, sûrement même, des temps d'épreuve et de difficultés que Dieu permet pour accomplir son plan dans nos vies, pour notre croissance spirituelle. Et ça, il faut bien le reconnaître, que parfois ça fait mal. Que parfois on n'en veut pas, que parfois on le fuit, voire qu'on le rejette, pour un temps en tout cas. Un chrétien ne peut pas perdre son salut, mais il peut refuser la vie et le chemin que Dieu a prévu pour lui. Gâcher sa vie en refusant la seigneurie de Christ sur cette vie. L'emploi du verbe « demeurer » est ainsi à souligner. C'est un terme que Jean aime beaucoup employer. Il est déjà 8 fois, même dans 4 versets de notre passage, « demeurer », être en Christ et y rester. Ce n'est pas l'expérience initiale de la foi qui sauve, ça serait plutôt croire en Christ, mais c'est le maintien de la relation de communion avec le Christ en obéissant à ses commandements. Être en Christ et y rester. Et c'est un impératif au verset 4. Rester là où on est déjà, s'y maintenir, continuer, endurer, être et demeurer en Christ. En communion avec lui par une vie d'obéissance. Ça, c'est pas très vendeur non plus. Mais de même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une identité de pensée et de dessein, Jean le souligne aussi dans plusieurs passages de son évangile, nous devons alors, toute proportion gardée bien sûr, nous aussi vouloir cette unité de pensée et de dessein. Pas toujours facile et pas toujours une réalité dans nos vies, confessons-le. Notre communion, notre intimité avec le Christ est parfois fluctuante. Les raisons sont diverses, mais souvent essentiellement selon notre volonté d'être nourri par lui ou non. Et c'est, me semble-t-il, ce que Jean veut souligner principalement. Car malheureusement, il est possible pour un chrétien d'être en Christ, mais loin de Christ. Et alors les œuvres produites en dehors de la communion avec le Seigneur, les œuvres qui ne sont pas produites par la vie de Christ en nous, ne résisteront pas. Lors du jugement, la personne sera sauvée, mais comme au travers du feu, dit l'apôtre Paul dans un autre verset. Le feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. En 1 Corinthiens chapitre 3. Un arbre se donne-t-il du mal pour porter du fruit? Un sarment se donne-t-il du mal pour porter du fruit? Nos efforts, si efforts il y a, sont pour répondre à son invitation, à rester attaché à lui, à puiser en lui. Je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même. La vie chrétienne demande des efforts, mais ne nous donnons pas du mal à porter du fruit, mais efforçons-nous à le laisser vivre en nous. Efforçons-nous à rester attachés à celui le seul qui peut nous nourrir et nous alimenter. Il paraît que c'est seulement une minorité parmi les chrétiens qui veulent réellement grandir dans l'intimité avec Dieu, qui ont compris l'importance et le privilège de grandir dans une qualité de vie relationnelle avec Dieu. Et beaucoup, nous-mêmes, peut-être des fois, on se contente du service minimum. Mais la réceptivité vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas une question d'être brillant, ce n'est pas un problème d'intelligence. On le sait, c'est une attitude de cœur pour laisser Dieu nous transformer. Et cela requiert notre attention et notre vigilance, notamment en ne se laissant pas déborder, voire refroidir par les événements et notre quotidien. En ces temps d'hiver, ma vie spirituelle est-elle dans une période glaciale, dans une hibernation volontaire ou subie? Suis-je dans une période où la vie semble un peu figée, végétative, voire carrément sans vie, comme un sarment sans fruit. Il m'arrive d'arriver à ce constat personnellement, pas toujours si facile. Et ces versets me sont particulièrement venus comme un appel du Seigneur, un rappel du Seigneur à une revitalisation. Merci Seigneur. Dieu est vraiment un bon vigneron et c'est vraiment ce qu'il souhaite, je le crois, pour chacun d'entre nous. Et pour ce qui me concerne, préparer les prédications, les études bibliques, tout ça, j'aime ça. Les cours, les devoirs à l'Institut biblique, j'aime ça aussi malgré les efforts et le temps requis. Des fois je me dis, bah, c'est quand même lire la parole, hein. C'est lire des commentaires bibliques, des livres chrétiens. C'est aussi demander fréquemment à Dieu son inspiration, sa direction, sa sagesse. Et dans sa grâce, Dieu répond. Plein de choses que j'apprends, que je comprends. Mais des fois, tout le temps dont j'ai besoin pour faire tout cela me fait pousser vers les oubliettes, ou carrément dans les oubliettes, un peu un vrai temps de méditation et de prière et de dialogue personnel. Un temps de ressourcement personnel nourri par Christ. Et je sens que ça manque. Je passe de nombreuses heures à faire des choses pour Dieu et avec Dieu, mais ce n'est pas la même chose qu'un petit temps de culte personnel appuyé en Christ. Clairement, on ressent rapidement un manque. Et cela requiert mon attention et ma vigilance, car ce n'est pas à négliger. Et vous pouvez probablement transposer ça dans vos propres vies respectives, avec vos divers engagements. Alors j'attire aussi votre attention là-dessus. C'est valable pour les pasteurs, mais c'est aussi valable pour chacun d'entre nous. Soyons vigilants. Ne nous privons pas de la sève du Seigneur, y compris par des tas de choses à faire dans l'Église et pour l'Église. Donc si vous avez un seul vœu à faire, pour vous-même et pour les autres, pour cette année à venir, faites celui-ci, celui d'être vraiment dépendant de Dieu, en unité avec lui, puisant en lui chaque instant de chaque jour. Et attendez pas le printemps pour cela. Son offre est pour maintenant tout de suite. Son offre est constante. Le Seigneur veut que nous soyons des arbres à fruits persistants et abondants, parce que sa sève est persistante et abondante. Et que cela soit pour sa seule gloire, comme le souligne le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen.